Salut à toutes et à tous. Radio Caravane reprend la route pour une nouvelle saison culturelle à destination de l'Européenne des Cirques et de la Biennale des Arts Vivants à Toulouse. Durant notre itinéraire, nous irons à la rencontre du collectif Rafale pour le spectacle Sanctuaire Sauvage. Nous visiterons le Théâtre du Grand Rond avec Camille Ferrier qui nous parlera de la Biennale des Arts Vivants et du parcours d'action culturelle créatrice. Ensuite, nous ferons une escale à la Granerie où Blandine Dedon, la médiatrice culturelle, nous présente son travail et notamment les projets avec la protection judiciaire de la jeunesse. Restez bien à l'écoute de notre voyage circassien car en fin d'émission, on vous fait gagner 2x2 places pour Pugilatus le 11 octobre à Toulouse. Mais tout de suite, attention au blizzard avec Antoine Thérieux et le spectacle Lazare Merveilleux.
Bonjour, présentez-vous s'il vous plaît.
Et je suis Antoine Thérieux de la compagnie Blizzard Concept.
Quelle discipline artistique pratiquez-vous ?
Alors je suis magicien et jongleur, ou je préfère dire manipulateur d'objets.
Vous pratiquez de la magie nouvelle, qu'est-ce que c'est ?
Alors, bonne question. Ça pourrait être assez long à développer, j'essaie d'être synthétique. La magie nouvelle, alors qui se différencie donc de la magie moderne. La magie moderne, c'est plutôt celle qu'on a l'habitude de voir quand on parle de magicien. C'est un acteur qui joue le rôle d'un magicien, c'est-à-dire qu'il va souvent être habillé, bien habillé. Il va être démonstrateur de tours aussi. C'est la différence avec la magie nouvelle. On a souvent aussi un répertoire qui est autour des cartes, des pièces, des lévitations de femmes, malheureusement. C'est plus souvent des femmes que des hommes. Voilà, il y a plein de tours qui sont prédéfinis et le magicien vient montrer un tour. Alors qu'en magie nouvelle, on essaye de renverser cette situation, c'est-à-dire qu'on crée des effets qui vont être au service d'une narration. Et donc on crée déjà, entre guillemets, des nouveaux tours qui vont vraiment avoir un sens derrière. On va les utiliser pour raconter une histoire. Donc c'est la définition de la magie nouvelle, c'est un art dans le langage et le détournement du réel dans le réel. Donc c'est très large en fait. On n'est plus dans la démonstration de tours, mais juste dans comment s'écarter du réel, créer des mouvements d'objets par exemple. En l'occurrence, c'est ça que je cherche beaucoup, qui sortent un peu du réel.
Votre compagnie s'appelle Blizzard Concept. Pourquoi avoir choisi ce nom ?
D'ailleurs, on dit même le Blizzard Concept. Nous, on voulait essayer de trouver un nom qui soit pas compagnie quelque chose. Du coup. Aussi, on travaille sur des installations plastiques. Alors, le mot concept était pour remplacer compagnie. C'est plus un concept. Et le mot blizzard, parce que notre premier spectacle, on a travaillé avec notamment des boules en polystyrène blanche et des sèche-cheveux. Beaucoup de travail autour de l'air et ces balles qui volaient. Donc, qui rappellent évidemment la neige, le vent et donc le blizzard qui amène la tempête. Cette sorte de vent neigeux, ouais. Moi, c'est ça que j'ai dans l'imaginaire du blizzard. Et du coup, on trouvait que aussi ça sonnait bien, Blizzard Concept. C'est important aussi d'avoir une sonorité qu'on retient et qui est assez simple à utiliser.
Votre spectacle Lazare Merveilleux, pourquoi ce nom de spectacle ?
Alors, essentiellement deux raisons. Ça s'inspire du personnage Lazare de Béthanie. Qui est dans la Bible, alors c'est pas un spectacle qui parle de religion, mais le point de départ du spectacle, c'est que c'est l'histoire de Lazare qui ressuscite, qui revient à la vie, et du coup c'est une référence à Lazare de Béthanie, qui a été ressuscité par Jésus dans la Bible. Et merveilleux, parce que je voulais utiliser dans le titre la notion de hasard merveilleux, c'est une notion que j'utilise beaucoup dans ma manière de pratiquer la magie, c'est-à-dire de créer des événements qui pour le public paraîtraient hautement improbables, ou presque un miracle, mais on a envie d'y croire parce qu'on a une raison d'y croire, dans le sens où, je vous donne un exemple, par exemple, on regarde une feuille qui tombe d'un arbre et elle tomberait pile poil sur le coin du verre et elle restera en équilibre. Ça, on pourrait appeler ça un hasard merveilleux et une performance qui paraît réalisable. Et la magie nous permet de la réaliser parce que des fois, évidemment, c'est faux. Donc c'est la contraction de ces deux notions, hasard merveilleux et Lazare de Béthanie. Du coup, ça a fait Lazare merveilleux.
Pouvez-vous nous parler de votre personnage que vous incarnez sur la scène ?
Donc, Lazare, donc c'est le seul humain de ce monde qu'on a créé. On pourrait souvent des spectateurs qui trouvent que on est dans un monde post-apocalyptique, presque il n'y a plus rien sur cette planète et il resterait qu'un seul humain. Et moi, j'aime bien cette histoire que les gens se racontent. C'est un personnage qui est à la fois loufoque, grotesque, poète raté un peu. Et donc, avec lui, il a une espèce de... comme un bâton de sorcier, un bâton de chaman, un peu, qui lui permet de faire des incantations, il inhale de la fumée, ça le rend un peu fou. Il travaille beaucoup avec des plumes, il a une plume qui crie toute seule. Et puis dans ce spectacle, il est accompagné d'une plante qui s'appelle Neptunia, qui est la dernière plante, le dernier végétal qui est dans ce monde, qui resterait, tant qu'elle est là, il est encore vivant. Il y a un oiseau, il reste plus qu'un seul animal, c'est un oiseau qui est devenu obèse et qui peut plus voler, qui s'appelle Gilbert. Donc un oiseau obèse, une plante narcoleptique parce qu'elle s'endort aussi tout le temps. Et un peuple de ballons rouges errants qui sont un peu comme, bien imaginé, comme des écureuils qui viennent voir ce qui se passe dès qu'il y a un moment de faible dans le spectacle, un moment un peu en dessous, ils viennent observer et interagir avec Lazare et l'embêter dans plusieurs scènes.
Ça se ressent que les personnages sont tous loufoques.
C'est de toute façon c'est l'univers qui est assez clownesque.
Dans votre spectacle précédent,
oui.
Opéra pour ses cheveux. Vous étiez deux sur scène. Aujourd'hui, vous dans Lazare merveilleux. Ouais. Vous êtes seul.
Oui.
Pourquoi ?
Pourquoi ? En fait, on a fait Opéra pour ses cheveux. Ensuite, Julien et moi, voilà, on a aussi d'autres expériences artistiques à côté. Ce spectacle, c'était plutôt une initiative de ma part. D'ailleurs, c'est pas moi qui devais jouer sur scène au début. Moi, je devais faire la mise en scène et toute la conception magique et scénographique. Et il se trouve que l'histoire du spectacle a fait que c'est moi qui me retrouve à jouer le spectacle sur scène. Mais Julien était très présent pendant cette création. Il était ce qu'on appelle en regard extérieur ou aide à la mise en scène. Donc, il a suivi tout le cursus de création. Donc, il est aussi avec moi sur cette création quelque part, même s'il n'est pas sur scène. Qui se cache dans le pot de la plante, même.
Un site internet où on peut vous retrouver.
Oui, www.compagnieblizzardconcept.com.
Et peut-être des réseaux sociaux aussi.
Oui, on a un Facebook, Compagnie Blizzard Concept.
Bon, merci beaucoup pour votre intervention. Et...
Bon courage pour la suite.
Après le Blizzard, attention à la rafale avec Thibaut Lezervant et Cécile Massou pour le spectacle Sanctuaire Sauvage.
Bonjour à tous et merci d'être venus. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, en quelques mots ?
Okay, moi, c'est Thibaut. Voilà, je fais partie du collectif Rafale. Donc, je suis circassien de formation.
Moi, c'est Cécile et dans le collectif Rafale aussi, dans les membres fondateurs. Et je suis sur le projet, je suis scénographe, aussi dramaturge.
Donc vous nous parlez du collectif Rafale, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous est venue l'idée de créer ce collectif ?
Le collectif Rafale au départ c'était 5 personnes, donc c'était un musicien Théo qui finalement a quitté le projet en cours de route, Cécile scénographe et 3 circassiens. Donc les 3 circassiens on s'est rencontrés à l'ESAC quand on était à l'école et on a toujours eu envie de travailler ensemble. Et donc c'est parti un peu de cette idée-là et on a commencé d'abord par faire des laboratoires, vraiment pour se rencontrer. Et à partir de là, le projet a émergé.
Donc là, je parle plus. En gros, c'est ça.
Là, c'est le show. Micro. Là, on vient à ce qu'on vient, je pense, à peu près.
Quels sont les domaines artistiques qui sont représentés dans votre collectif ?
Il y a donc le cirque. À la base du collectif, donc, il y avait un musicien dans le projet. Et donc la musique et le son, c'était déjà des axes importants. Et donc, on s'est entouré de personnes en plus. Par exemple, un ingénieur son qui venait du cinéma. Pour justement sortir un peu de la zone du théâtre et du cirque et aller chercher un autre domaine. Donc Victor Pro, c'est l'ingé son qui a travaillé avec nous en plus du musicien au début du collectif.
Il était vraiment sur le dispositif sonore.
Ça avait du sens par rapport au projet d'amener une scénographie qui soit pas spécialement visuelle mais sonore. C'est pour ça qu'on allait chercher quelqu'un du cinéma pour tout ce qui est spatialisation, le fait de faire tourner le son, droite-gauche, toutes ces préoccupations-là. En plus de ça, après, on s'est entouré d'une personne qui travaille la lumière aussi du cinéma, aussi pour aller chercher un peu ailleurs que dans les codes du théâtre, pour être dans la recherche. Quoi.
Bousculer un peu les choses, quoi, provoquer... Essayer justement de rassembler des gens avec un univers artistique différent du nôtre, c'est-à-dire des gens qui ne viennent pas forcément du spectacle vivant, et donc qui forcément, quand ils arrivent, ils ont une autre façon de travailler, d'autres points de vue, d'autres... Et donc ça, c'était chouette. C'est très riche, quoi. Ça bouscule beaucoup le processus de travail. Et voilà, on n'a que des bonnes surprises.
J'accélère, je descends. C'est vraiment juste rythmique jusqu'à ce que ça s'arrange.
Dans le cadre de l'Européenne du cirque, vous présentez votre spectacle Sanctuaire Sauvage. Comment vous est venue l'idée de créer ce spectacle ?
Le projet de base zéro, c'était comment le son peut devenir un agrès de cirque et comment ça, le son peut mettre en mouvement des corps. On n'a pas dit ça, mais moi, je suis la sœur de Sonia, qui est une des circassiennes. C'est vrai que les circassiens, dans un premier mouvement, ne vont pas spécialement chercher des scénographes. C'est parce qu'on est aussi liés, quoi. Et donc, il y avait cette idée de faire ce spectacle sonore. Et elle, de son côté, donc, elle avait cette envie de faire un spectacle depuis très longtemps, un spectacle pour les non-voyants. Parce que mon père est aveugle. Et disons que ça rejoint... on avait déjà formé une équipe et elle a repensé à cette idée et elle nous en a parlé à tous et en fait tout le monde était super enthousiaste de suivre cette idée.
Votre spectacle s'appuie sur des témoignages. Comment avez-vous fait pour les collecter ?
Dans une voiture, justement en train d'écouter la radio. Ils écoutaient France Inter sur les épaules de Darwin. Et ça parlait un peu des paysages sonores, de comment les sons sont interconnectés, donc comment les oiseaux chantent, répondent au feuillage, et enfin, ces espèces d'orchestres naturels. Et ça parlait aussi d'aveugles, en fait. Quelqu'un qui avait perdu la vue et qui avait passé tout un temps de sa vie à faire des banques de données de ces sons, de ces landscapes. Et dans cette émission de radio, il y avait aussi un aveugle qui lui aussi avait perdu la vue, donc un ancien voyant, qui l'a d'abord très 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 mal vécu et qui à un moment donné a eu une espèce de déclic où il est sorti de chez lui et il pleuvait. Et en fait, la pluie ouvrait l'espace. D'un coup, il arrivait à distinguer l'allée avec la pluie qui tombait sur les graviers, l'arbre qui sonnait différemment. Et donc, tous ces sons de pluie faisaient qu'il voyait, enfin, il avait une image mentale de l'espace. Et du coup, cet extrait-là, c'est un peu ça qui a rassemblé tout le monde et qui a fait, enfin, en tout cas, moi. Qui a fait me dire, ouais, ça m'intéresse en tant que scénographe, cet enjeu-là. C'est super, faut y aller, quoi. Et donc, il y avait cet extrait-là qui nous a fait démarrer, qui a aussi donné le titre du spectacle. Parce que un des albums de ces banques de données de sons s'appelait...
In the Wild Sanctuary.
Voilà, donc littéralement Sanctuaire Sauvage. Mm-hmm. Donc, c'est parti d'une émission de radio. Et ensuite, dans les témoignages, on a lu des choses et aussi on a interviewé beaucoup mon père, en fait. Parce que c'était un peu ça le point de départ aussi.
C'est le fait d'entendre, c'est une façon aussi de percevoir le monde. C'est vraiment une autre façon d'aborder le monde, quoi. Et on peut avoir une lecture du monde à travers l'univers sonore et en écoutant la nature. Et donc, c'est un peu l'idée du spectacle, quoi. C'est essayer de vivre le cirque à travers le son, quoi.
Maintenant que vous nous avez donné vraiment envie d'aller voir le spectacle, est-ce que vous pouvez nous rappeler les dates de votre représentation ?
Alors, on fait une avant-première ici, parce qu'on est encore en résidence de création, donc on fera les avant-premières ici pendant l'Européenne de cirque, et ça, c'est le 12, il me semble. Ensuite, on remballe tout, on charge les camions, et on remonte à Bruxelles pour faire les premières le 18, 19 et 20 octobre au Théâtre Varia, en partenariat avec l'Espace Catastrophe. Et après ça, on revient encore dans le coin pour le festival Circa.
Bon, bah écoutez, merci beaucoup.
Bah merci.
Bah merci, oui.
Après, on accélère. Hop. Je descends. J'arrive là.
Radio Caravane.
Radio Caravane.
Des saltos.
Au studio.
Radio Caravane, des saltos au studio.
On fait une étape au théâtre du Grand Rond. Rencontre avec Camille Ferrier.
Bonjour Camille.
Bonjour.
Moi c'est Ghislain, stagiaire à la grainerie Radio Caravane. Nous sommes là pour vous interviewer et en savoir plus sur vos domaines. Drôle au théâtre du Grand Rond.
Donc au Théâtre du Grand Rond, c'est assez particulier parce qu'on est une société coopérative d'intérêt collectif. Donc c'est une entreprise qui se gère de façon collégiale et il se trouve qu'il n'y a pas de direction. Personne n'est directeur ou directrice au Théâtre du Grand Rond. Donc pour les salariés, on a un statut particulier qui s'appelle salarié associé. Donc il se trouve qu'on a tous des missions qui sont propres à la structure, à la gestion de toute la structure. On a des missions sur l'accueil, puisqu'on tourne sur les soirées, donc l'accueil du public, la billetterie, le bar, tous les membres de l'équipe font ça. Et ensuite, on a chacun nos missions personnelles, et en ce qui me concerne, c'est la formation professionnelle. C'est le suivi et l'inscription des personnes qui veulent suivre des formations avec nous, au Grand Rond.
Depuis quand exercez-vous ce métier ?
Alors, je suis au Théâtre du Grand Rond depuis un an, un petit peu plus d'un an. Et sinon, je travaille dans le milieu culturel depuis 4 ans maintenant.
Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est la Biennale ?
Tout à fait. Alors, la Biennale, c'est donc la Biennale Art Vivant International. C'est un festival qui a été imaginé par le Théâtre de la Cité au départ, qui est venu voir les autres structures culturelles de la métropole. Donc il y a plus de 30 structures qui sont partenaires et l'idée c'était d'imaginer une programmation ensemble qui mette en avant les arts vivants et sur une dimension internationale. Voilà, donc chaque lieu, chaque structure a pu proposer des expositions, des spectacles, des rencontres, voilà, toutes sortes d'événements qui mettent en avant donc, des artistes internationaux qui viennent à Toulouse.
J'en ai appris aussi, vous êtes créatrice. Votre implication à travers le parcours créatrice, pouvez-vous m'en parler ?
Alors, on a imaginé plusieurs parcours pour des spectateurs et spectatrices avec tous les membres des équipes des autres structures. Et moi, je suis en charge donc, d'un parcours qui s'appelle le parcours créatrice, qui met en avant des créatrices internationales. Donc, il y a 3 rendez-vous particuliers. On sera... Donc le samedi 5 octobre, on suit la nuit des autrices. Ce sont des lectures de textes écrits par des femmes exclusivement. Lundi soir, on sera à la cave poésie pour rencontrer Lydie Salver, qui est écrivaine et qui a gagné le prix Goncourt en 2014. Et on sera le 10 octobre au Théâtre de la Cité pour voir le spectacle Henrietta Lacks de la metteuse en scène polonaise Anna Smola.
S'il vous plaît, pouvez-vous nous expliquer sur ces 3 dates de parcours ?
Alors donc la première date c'est donc le 5 octobre pour la nuit des autrices. En fait c'est un bureau, une association à Grenoble qui a rassemblé des textes de femmes écrivaines de théâtre. Et comme c'est assez rare d'en trouver et assez rare d'en voir qui sont joués ou même qui sont lus et même qui sont édités, des compagnies programmées au Grand Rond l'année dernière ont décidé de s'en emparer et d'en faire une lecture. Ça a été un gros succès l'année dernière au Théâtre du Grand Rond, donc on a décidé de le reprendre dans une même seule et même soirée. Donc il y a 4 rendez-vous dans la soirée, un à la Cave Poésie, puis au Théâtre de la Cité, puis à l'Église du Jésus, dans le cadre du Festival Toulouse-les-Orgues, et pour finir au Théâtre du Grand Rond, de minuit à 1h30 du matin. Le lundi, on est donc à la Cave Poésie avec Lydie Salver et les personnes qui suivront le parcours ont en plus la chance de pouvoir venir un peu plus tôt à la Cave Poésie, d'y manger, de rencontrer l'équipe qui sera là-bas. Et enfin, donc, le dernier soir, c'est un peu plus classique, on va dire, là on va voir un spectacle tous ensemble, donc le jeudi 10 octobre au Théâtre de la Cité, donc c'est Henrietta Lacks.
Pourquoi vous avez choisi de monter le parcours créatrice ?
La place des femmes dans le milieu de la culture, c'est une question qui nous tient à cœur ici au Grand Rond. On essaye d'avoir une programmation paritaire, on essaye de réfléchir au rôle de chacun aussi dans l'équipe du Grand Rond, pas seulement sur les rôles que les femmes peuvent avoir sur scène ou sur ce que font les porteuses de projets. Et donc c'est pour ça que pour nous c'était important de mettre en avant les femmes qui sont créatrices, parce qu'en fait on s'en rend pas compte, mais sur les scènes de théâtre, de musique, tout, vous voyez que des hommes, la plupart du temps, ou massivement des hommes. Les porteurs de projets, ce sont des hommes. Les directeurs des lieux, ce sont des hommes. Voilà. Et ça, c'est pas parce qu'il y a moins de femmes dans le milieu du spectacle ou parce que elles seraient dans notre métier. Non, c'est parce qu'il y a vraiment des freins pour les femmes à arriver sur les scènes et dans les postes de direction. Et même souvent, on voit dans les équipes, souvent, il y a beaucoup de femmes dans le milieu artistique, mais elles occupent les rôles qui sont sont, on dit dans l'ombre, on n'aime pas trop dire ça, mais en tout cas les rôles qui ne font pas qu'elles sont mises en avant. Elles sont dans l'administration, elles sont à la diffusion, à la production, mais elles ne sont pas souvent à la direction et sur les scènes. Donc ça pour nous, c'est vraiment quelque chose contre lequel on essaye de lutter tout le temps.
On vous remercie pour cette interview et cet accueil que vous nous avez réservé. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous aussi. À bientôt.
Retour à la grainerie avec Blandine Dedon, la médiatrice culturelle, pour un focus sur les projets cirques en lien avec la protection judiciaire de la jeunesse.
Bonjour, peux-tu te présenter ?
Alors, je suis Blandine Dedon et je suis médiatrice culturelle à la Grainerie.
En quoi consiste ton métier ?
Mon métier consiste à mettre en relation les artistes et beaucoup de gens et de publics différents. Je travaille à la mise en place des projets avec les scolaires, donc ça peut aller du maternelle primaire plutôt jusqu'à l'université. Et les projets permettent de créer du lien entre des adolescents, avec le milieu carcéral, avec le milieu agricole. Ça peut prendre plein de formes différentes, mais essentiellement en direction de gens qui méconnaissent le milieu du cirque contemporain.
Tu mènes des projets avec la PJJ, peux-tu nous en parler ?
Alors les projets avec la PJJ, donc la PJJ c'est la protection judiciaire de la jeunesse, donc ça dépend du ministère de la justice, et ça fait plusieurs années que la grainerie travaille en lien avec des éducateurs de la PJJ notamment, et différentes compagnies dans l'idée de le média cirque, enfin que les arts du cirque peuvent avoir aussi une dimension éducative et favoriser à la fois la confiance en eux des jeunes, leur imaginaire, la rencontre avec des adultes qu'ils ont eu peu l'occasion de croiser, à savoir les artistes. Et en partant du principe que cette rencontre-là, elle est forcément riche pour eux dans leur parcours. Donc on travaille avec l'établissement pénitentiaire pour mineurs de Lavaur, et puis ça nous est arrivé de travailler avec des foyers sur Toulouse où les jeunes étaient placés.
Du coup, le cirque, qu'est-ce que ça leur apporte aux jeunes de la PJJ ?
L'idée de se confronter alors à une part de risque, par exemple, quand on fait des portées acrobatiques, par exemple, quand on fait du trapèze grand volant, on met en risque son corps, mais dans un risque maîtrisé. Et c'est quelque chose qui est vraiment important de travailler avec ces adolescents-là. Le cirque, ça peut apporter donc la confiance aussi, la confiance en soi, la confiance en l'autre, la confiance en soi parce qu'on est souvent assez fier d'être parvenu à faire quelque chose de difficile, et puis la confiance en l'autre parce que le cirque, il y a vraiment une dimension collective, et pour réussir, il faut avoir confiance avec celui qui te porte, celui qui est porté, celui qui t'envoie une balle, celui qui te tient quand tu te lances au trapèze, etc. Donc ça permet de travailler tout ça. Puis moi, j'insiste aussi beaucoup sur ce côté imaginaire aussi. Je pense que le parcours des jeunes qui sont accompagnés par la PJJ, il est souvent un peu chaotique par définition. Et ils ont peu d'espace pour créer, pour imaginer. Le cirque et l'art en général, ça peut permettre ça, enfin donner cette envie-là.
D'où vous est venue l'idée ?
De travailler avec la PJJ, oui. Plus particulièrement. Alors, elle n'est pas venue de moi. C'est des projets qui avaient commencé à être montés par la personne que j'ai remplacée, Lucille Montada, et très en lien avec des gens de la DRAC, donc du ministère de la Culture, et des gens du ministère de la Justice qui avaient compris l'intérêt que pouvait avoir le cirque pour ces jeunes-là. Donc au départ, le projet, il a consisté aussi dans la formation des éducateurs d'abord, parce que ce qui est toujours important dans ce type de projet, c'est que les intermédiaires, entre guillemets, donc ça peut être soit les enseignants, soit là, en l'occurrence, les éducateurs, soient aussi convaincus de la pertinence de ces projets-là. Le début de ce projet, il y a des éducateurs qui sont venus à la grainerie, qui sont allés à Circa pour voir des spectacles, pour faire du trapèze grand volant, pour suivre aussi des ateliers, pour qu'ils puissent ensuite en parler aux jeunes parce qu'ils l'avaient eux-mêmes éprouvé. Et ça, c'est une dimension vraiment très très importante et qui a permis ensuite que les projets perdurent, que les éducateurs, ils aient envie de les pérenniser parce qu'ils avaient essayé eux-mêmes et compris eux-mêmes tout l'intérêt que ça pouvait avoir.
Et du coup, que pensent les jeunes du cirque avant et après cette expérience ?
Alors, je pourrais pas parler pour eux, puis je pense qu'il y a autant d'avis que ce qu'il y a eu de jeunes qui ont pu bénéficier de ces projets-là. En tout tout cas, leur vision du cirque, elle change, mais ça, dans l'ensemble des projets de médiation, souvent, et on est nombreux comme ça, à avoir l'idée que le cirque, c'est un chapiteau, c'est des animaux, c'est des paillettes, c'est quelque chose d'abord pour les enfants, et puis après ça, ben, on se rend compte que non. Les jeunes se rendent compte qu'effectivement, c'est bien au-delà de tout ça. Et ils se rendent compte aussi tout le travail nécessaire pour être artiste de cirque, tout ce qui se cache derrière tout ça. Ils se rendent compte que c'est aussi fait pour eux et pas seulement des enfants. Ils se rendent compte que c'est pas seulement des paillettes, mais une création derrière des idées. Donc je pense que leur perception du cirque contemporain, ça c'est sûr, elle change. Et qu'on espère, mais que beaucoup expriment aussi, cette fierté-là d'avoir réussi à faire des choses dont ils se pensaient pas capables et surtout qu'ils pensaient ne pas les intéresser a priori. C'est plutôt bien reçu. Ouais.
Du coup, tu peux nous donner une anecdote?
Si je me souviens d'un jeune qui était au trapèze grand volant une fois et donc je pense qu'il y avait qui était là parce qu'il avait un casier judiciaire déjà assez chargé pour son âge et il était sur la plateforme du trapèze grand volant et il avait peur et c'est complètement normal, on a tous peur quand on est là-haut et qui s'est mis à crier vraiment en disant je préfère encore être en garde à vue que sur cette plateforme, je veux vraiment pas sauter. Et il le disait vraiment sincèrement et pourtant je pense qu'en termes d'adrénaline, de choses risquées, il avait vécu des choses beaucoup plus risquées que la situation dans laquelle il était là présentement sur la plateforme de grand volant, mais il était mortifié et puis il a quand même sauté et il était super content de l'avoir fait après. Mais en tout cas, je me souviens de l'avoir entendu hurler dans la salle d'entraînement, non, je préfère être encore en garde à vue qu'ici, et ça m'avait fait rire.
Mais merci d'avoir répondu.
Mais de rien, avec plaisir.
Retrouvez toutes les actualités de la médiation culturelle de la grainerie sur le site médiation-la-grainerie.net.
La grainerie te présente l'Européenne de cirque.
C'est l'occasion pour toi de découvrir le cirque sous un nouveau jour et de faire le plein de spectacles grâce à des artistes venus du monde entier.
Jusqu'au 19 octobre, viens vivre le cirque dans l'intimité d'un appartement ou dans l'agitation d'un théâtre de quartier.
Viens découvrir des mobiles qui s'animent pour enchanter les tout-petits ou du cirque à ressentir les yeux fermés.
Des jeunes poussent aux vieilles branches, de la magie nouvelle au corps en mouvement.
L'Européenne de cirque, c'est des expériences en tout genre dans différents lieux culturels de la métropole toulousaine.
Info et résa sur la-grainerie.net.
Dès à présent, nous vous proposons de tenter de remporter deux entrées pour deux personnes pour le spectacle Pugilatus de la compagnie Escalata Circus. En représentation, le vendredi 11 octobre à 19h au Centre culturel Alban Mainville à Toulouse. Pour cela, rejoignez notre page Facebook et Instagram Radio Caravane et commentez le post concours. Deux gagnants seront tirés au sort. Bonne chance!
Nous voilà au terminus de cette émission, mais on revient très vite pour faire le plein de culture à bord de notre caravane radiophonique. Retrouvez toutes nos interviews complètes, reportages et photos sur notre site radiocaravane.net et suivez-nous sur les réseaux sociaux.
À bientôt!
Radio Caravane est un projet d'éducation populaire et de médiation culturelle. Proposé par la Grainerie et les associations Mediacoma et Iva Sound Studio,
un groupe de jeunes adultes en parcours d'insertion s'initie aux techniques radio et web média.
Ils couvrent la programmation de la Grainerie en réalisant des émissions diffusées sur plus de 15 radios partenaires. Retrouvez nos interviews complètes et bonus sur radiocaravane.net.